Radio Okapi.
Le journal Daniel Tamizoni.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. Le président de la République entame à partir de ce lundi des consultations telles qu'annoncées dans son adresse à la Nation le vendredi de la semaine dernière. Le collectif Sauvons Vital Kamerhe saisit l'occasion pour demander à Félix de Tshisekedi de s'impliquer pour que son directeur de cabinet soit libéré et participe en homme libre à ces consultations. Le Fonds pour la promotion de l'industrie finance à hauteur de 167 000 dollars américains les études de faisabilité pour l'électrification de Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Le gouverneur ad intérim de la province qui en a fait l'annonce le week-end dernier fixe en 2 semaines le début des travaux. Le chargé de la prise en charge des maladies au sein du secrétariat technique de la riposte COVID-19 est l'invité de ce journal matin sur Radio Okapi. Le professeur Jean-Marie Kayembe nous fait le point de la situation actuelle de COVID-19 en RDC. Son interview est à écouter avant la fin de cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. Le coordonnateur national de la plateforme Sauvons Vital Kamerhe a saisi à travers une correspondance le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il s'implique personnellement et officiellement dans la libération de son directeur de cabinet en sa qualité de magistrat suprême. Kayus Matata Kaoussi a dit hier dimanche lors d'une conférence de presse ici à Kinshasa que le moment est opportun pour que Vital Kamerhe puisse participer en homme libre dans les consultations que le président de la République entame ce lundi. Le coordonnateur national de Soutenons Vital Kamerhe dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons constaté qu'il est victime d'un procès politique et non un procès judiciaire. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de profiter des consultations qu'il entame dès cette semaine pour qu'il puisse résoudre politiquement une fois pour toutes les dossiers dont est victime son directeur de cabinet. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons estimé qu'il fallait qu'il participe en homme libre. Nous demandons au président de la République, en tant que magistrat suprême, d'user de toutes ses prérogatives pour que l'honorable Vital Kamerhe participe aux consultations qu'il entame cette semaine en homme libre, qu'il soit acquitté. Nous répétons que l'honorable Vital Kamerhe est victime d'un procès politique et non un procès judiciaire. Vital Kamerhe, en tant que pacificateur, il a la manière de mettre toutes les parties ensemble. Nous pensons qu'avec la présence de Vital Kamerhe, toutes les parties prenantes à ces négociations vont trouver intérêt d'attente. Et ça va aussi de l'intérêt du président de la République comme son principal allié.
Une autre demande, c'est celle du président de l'intersyndicale de la Société commerciale des transports et ports SCTP Exonatra, qui sollicite que la liste de personnalités que le président de la République va consulter à partir de ce lundi soit élargie aux leaders d'opinion et aux syndicalistes. Armand Ossassi a fait sa demande au cours d'un point de presse tenu hier dimanche ici à Kinshasa. Il affirme que les leaders d'opinion et les syndicalistes participent à la gestion des questions sensibles et peuvent ainsi contribuer à trouver des solutions aux problèmes qui minent le pays. La nouvelle dynamique de la société civile demande elle aussi aux dirigeants politiques congolais de s'occuper aussi et en priorité des problèmes sociaux de base de la population. Dans une déclaration parvenue à Radio Okapi hier dimanche, le président de la nouvelle dynamique de la société civile se dit satisfait du récent discours du président de la République dans la mesure où il s'affranchit d'un arrangement politique ou des accords qualifiés d'obscurs. Jean-Claude Kijana va plus loin pour demander que l'accord FCC-CACH soit rendu public afin d'éviter à l'avenir des incertitudes et autres blocages du fonctionnement des institutions de la République. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait choisi pour nous par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons toujours demandé au président de la République de s'affranchir de tout accord, de tout arrangement politique qui ne fait pas de l'intérêt supérieur de la nation congolaise sa principale préoccupation. Nous avons toujours demandé au président de s'affranchir de ces accords obscurs, de ces arrangements politiques obscurs qui ne tiennent pas compte des besoins de la population pour s'en tenir qu'au seul pacte qui nous lie tous les enfants du Congo qui demeure la constitution de notre pays. Nous demandons même qu'il aille au-delà, qu'on puisse même nous publier ces accords entre l'EPCC et les CACH. Nous devons connaître quels sont les engagements que les uns et les autres avaient pris dans le cadre de cet accord là-bas. Et cela permettrait à l'ensemble de la population congolaise de connaître qui est Jida, de connaître qui est Saint-Pierre, de connaître qui est Saint-Paul. Parce que aussi longtemps que ces accords vont demeurer obscurs, demeureront aussi dans une incertitude et à un certain moment, le président de la République, à un certain moment, il sera limité, il sera bloqué, il va se retrouver encore enfermé dans les clauses de leur accord qui demeurent opaques jusqu'à ce jour.
Et nous parlons de cette bonne nouvelle pour les habitants de la province de Kwango, plus particulièrement dans la ville de Kingi, chef-lieu de la province. Le fonds de promotion de l'industrie FPI a remis à la province 167 000 dollars américains. Ce financement va aider à la réalisation des études de faisabilité pour l'électrification de la ville de Kingi. Le gouverneur intérimaire du Kwango, qui en a fait l'annonce le week-end, a fait savoir que les travaux pourront commencer dans 2 semaines. Léopold Kangulumba, gouverneur Aïe du Kwango, joint au téléphone par Irène Boma.
C'est depuis hier que j'ai signé le protocole avec l'FPI. Nous avons signé conjointement avec les DG. Il s'agit d'abord des études de faisabilité. Les études, en tout cas, si tout va bien, dans 2 semaines, ça peut déjà commencer. Les coûts, c'est 167 000 dollars. C'est l'FPI qui finance. Nous sommes déjà notifiés par rapport à ça. Dès qu'ils auront terminé, la société SNEC commence le transport du courant. C'est-à-dire que les études de faisabilité détermineront tout ce qu'il faudra. Par exemple, combien de poteaux, comment les transporter et comment les distribuer, tout ça, c'est ça l'ensemble des études de faisabilité. Et dès qu'ils auront terminé, ils déposent les rapports à la société qui va commencer effectivement le travail. Nous, en tant que politique, en tant que dirigeants, notre rôle, comme nous l'avons toujours dit, c'est de laisser un nom au Kwango. Nous nous sommes battus, les pays ont entendu nos cris, eh bien, on a répondu favorablement. Ce que nous demandons à la population, c'est d'accueillir convenablement les projets et de se l'approprier.
Le collectif contre la vie chère et pour la défense des droits des consommateurs exhorte le président de la République à s'impliquer personnellement dans la problématique de la fourniture de l'électricité en RDC et particulièrement à Kinshasa. Dans une déclaration à la presse hier dimanche dans la capitale, le président de ce collectif a rappelé que la desserte en électricité est un triple droit pour les Congolais et la Constitution en a fait une obligation pour l'État. Les propos du président du collectif contre la vie chère et pour la défense des consommateurs, Jean-Pierre Kayembe au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Les collectifs contre la vie chère et pour la défense des droits des consommateurs en République démocratique du Congo déplorent la situation de la desserte en électricité ces derniers temps à Kinshasa. La population kinoise est victime de la mauvaise desserte en électricité par des coupures intempestives, de l'estage qui s'érige en régime, factures exagérées non équivalentes à la consommation, sans oublier la cartographie discriminatoire en desserte dont sont victimes certains quartiers et provinces dans notre pays en violation de l'article 58 de la Constitution. Est-ce que c'est un problème de la mauvaise foi, de manque de ressources ou de moyens? La répartition équitable de richesses en constitue aussi un droit. Les collectifs contre la vie chère et pour la défense du droit des consommateurs invitent le dirigeant de la SNEL de remettre le peuple congolais dans ce droit en desservant équitablement toutes les couches, de revoir sensiblement à la baisse les factures aux autorités politiques, précisément au chef de l'État, de se pencher sur la question car il est le garant de respect de droit de tous les citoyens devant qui il est redevable au regard de ses promesses électorales.
Les jeunes entrepreneurs de Matadi dans le Congo central disent être en difficulté de concourir au financement du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, le PADEM PME, un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale. Les critères d'éligibilité selon leurs propres termes et surtout la contrepartie exigée constitue un véritable obstacle. Martin Bakolé est le président et le vice-président des petites et moyennes entreprises de Matadi. Il s'explique au micro de Nana Plus Riche Mambou.
Premièrement, beaucoup de entrepreneurs existants plus de 2 ans se trouvent dans une phase où beaucoup n'ont pas de capacité d'élaborer leur propre plan d'affaires. Ils sont obligés de contacter des structures entre autres OPEC, REGEC, pour les aider à élaborer leur plan d'affaires. Et cela pose problème parce que ça demande de l'argent. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième problème, c'est au niveau de contrepartie de 30% pour les PME existant plus de 10 ans. Il y a des jeunes qui ont des projets, ils ont des entreprises qui existent déjà plus de 10 ans. Mais l'enveloppe de ce qu'ils ont comme compte bancaire n'arrive pas à hauteur de 30% de ce qu'ils ont dans leur plan d'affaires. Si le gouvernement peut se porter garant, afin que ces entrepreneurs puissent être financés et que le gouvernement puisse mettre un mécanisme en place pour les accompagner afin qu'ils puissent aboutir avec le projet, faute de quoi beaucoup des entrepreneurs ne vont pas bénéficier de ce financement. Franchement, nous lançons un appel au ministre des PME.
Allons à présent dans le Nord Kivu. Le ministre provincial de la Justice a lancé les travaux de présentation des résultats des sondages réalisés auprès des populations de Butembo et Lubero sur la consolidation de la paix et la reconstruction. Ces sondages ont été effectués dans le cadre du projet collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC, projet mis en œuvre par le PNUD en collaboration avec la section des affaires civiles de la MONUSCO, la Harvard Humanitarian Initiatives, les universités congolaises ainsi que l'Institut national des statistiques. L'objectif est de montrer aux autorités la situation sécuritaire et judiciaire de la région afin de mener les actions pouvant aider à améliorer cet état des choses. Les enquêteurs parlent de résultats mitigés grâce à Mzati.
D'après Maître Isaac Kayaya, expert national en réforme judiciaire et sécuritaire et chef de ces projets au sein du PNUD venu de Goma, les résultats obtenus de ce sondage montrent qu'il y a de grands défis sur le plan sécuritaire, judiciaire et de la cohésion sociale.
Concernant la sécurité, le pourcentage de la population qui s'estime en sécurité, surtout pendant la nuit, avoisine les 30%. Pour ce qui est de la justice, le sondage montre qu'il y a une méfiance assez élevée de la population vis-à-vis des institutions judiciaires, tant civiles que militaires. Les sondages montrent aussi qu'il y a une détérioration de la cohésion sociale au sein des différentes couches de la population du Nord Kivu, spécifiquement à Butembo et dans les territoires de Lubero.
Pour le ministre provincial de la Justice, ces sondages constituent pour les autorités un miroir de la situation de la région. Robert Kambale.
C'est un programme qui nous aide à tant qu'autorité de bien comprendre les desiderata, les préoccupations, les perceptions de la population, les attentes pour que nous puissions à notre niveau prendre des décisions.
Notons que cet atelier de présentation des résultats du 20e sondage des populations sur la sécurité, la justice et la cohésion sociale réunit les comités urbains de sécurité ainsi que les acteurs de la société civile et va se clôturer ce lundi à Butembo. Butembo, grâce à Mzati. Radio Kapi.
L'ONU a lancé en ce mois d'octobre une campagne appelée « Marquons la pause » pour combattre la désinformation sur les réseaux sociaux concernant particulièrement la pandémie à coronavirus. Selon le directeur du Centre d'information des Nations Unies basé à Dakar au Sénégal, Damien Cardona, ce phénomène des fake news n'épargne aucun continent ni aucune culture, d'où son appel surtout aux jeunes du continent et de la RDC de prendre toujours du recul et un temps avant de partager toute information reçue sur les réseaux sociaux. À partir de la capitale sénégalaise, Damien Cardona est joint par Honoré Missinga Kalala.
Moi, je pense que cette campagne de pause est énormément importante. Nous tous, on regarde tout le temps d'informations dans tous les réseaux sociaux, mais parfois on dit « Ah, c'est quoi ça ? Vraiment, ça n'a pas de sens. » Alors, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir un esprit critique. Il y a beaucoup de bonnes choses, les réseaux sociaux ont fait des choses magnifiques, ils ont relié le monde, ils ont fait trouver des amis, ils ont fait énormément de belles choses. Mais en même temps, ils sont aussi tellement puissants qu'ils peuvent passer comme ça, tellement vite, des infox, des fake news. Alors, je pense que la jeunesse, la société congolaise, quand elle voit des informations, il faut toujours vérifier. Alors il faut cette pause, il faut prendre un tout petit peu de temps, avoir le temps de dire « ça je suis pas sûr, laisse-moi réfléchir un moment quand je suis sûr que je vais partager ça à mes amis, à mes collègues, à mes proches, en sachant que c'est de l'information crédible. »
Actualité internationale.
Des commissaires guinéens de la Commission électorale nationale indépendante dénoncent des fraudes électorales au lendemain de la proclamation par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle, des résultats qui ont donné vainqueur le président sortant Alpha Condé, le vice-président de l'instance électorale Banosso, qui est issu de l'opposition, a signé une déclaration proposant la reprise partielle ou totale du scrutin en raison d'un certain nombre d'anomalies, refus d'afficher les résultats résultats, manque de transparence dans la remontée des procès-verbaux, disparition, substitution, encore falsification des procès-verbaux. Le rapport des commissaires note une concentration d'anomalies dans la région de la Haute-Guinée. Face à la résurgence épidémique du Covid-19, la Belgique a pris de nouvelles mesures. À partir de ce lundi 26 octobre, les cinémas et les musées de Bruxelles ferment leurs portes. Le couvre-feu est étendu. La plupart des activités sportives sont interdites et les masques sont de nouveau obligatoires partout dans la capitale européenne. C'est le fatalisme qui règne face à ce qui est perçu comme un nouveau confinement.
L'invité.
Et l'invité de Radio Capi ce matin est le professeur Jean-Marie Kayembe, le chargé de la prise en charge des maladies au sein du secrétariat technique de la Riposte. Il nous fait le point sur la situation actuelle de Covid-19 en RDC. Pour lui, la situation du Covid-19 se présente comme en peau de léopard en République démocratique du Congo actuellement. Le professeur Jean-Marie Kayembe répond aux questions de Blaise Chindani.
Bonjour, professeur Jean-Marie Kayembe.
Bonjour.
Professeur, comment se présente la situation du coronavirus actuellement en République démocratique du Congo?
À plusieurs vitesses. Nous assistons à une accalmie, un assez bon contrôle, je souligne assez bon, sur la métropole Kinshasa, dans le Bas-Congo, le Katanga, où il y avait quand même déjà des foyers. Par contre, nous avons encore quelques préoccupations dans le Nord Kivu, ce qui justifie d'ailleurs en ce moment une mission du niveau central qui est allée renforcer et surtout améliorer le niveau de formation au niveau de la province du Nord Kivu. Donc, c'est un petit peu en peau de léopard que se présente actuellement la situation de la COVID dans notre pays.
Oui, professeur, il y a une polémique autour de la validité du test du coronavirus. Là, je parle de voyageurs. Ce test-là est valable pour combien de jours?
On s'est promis, et ça a été dit clairement dans l'arrêté du Premier ministre qui donne le pouvoir à l'INRB de l'organiser, que c'est 3 jours. 3 jours pour l'extérieur. Donc, ce test est valable 3 jours pour l'extérieur et pour l'intérieur, compte tenu des difficultés, mais en nous reposant surtout sur les données, les connaissances scientifiques actuelles, ça va jusqu'à 1 semaine. Mais le test pour l'extérieur, c'est dans les 3 jours.
Et les gens qui voyagent en province sont obligés, s'il a quitté Kinshasa, pour y retourner, il est obligé de faire le test en province avant d'entrer à Kinshasa aussi.
Ben, si il fait en province plus d'une semaine, par exemple, c'est ce que j'ai dit. Nous, notre comportement est déterminé par les connaissances que l'on a aujourd'hui de la période d'incubation de ces virus, qui peut aller, c'est connu, entre 2 à 14 jours. Regardez un petit peu ce délai-là. Une personne qui va normalement, en ayant cette période, qui était, si elle était négative au départ de Kinshasa, mais ce sont des précautions supplémentaires. Et de toute façon, dans toutes les provinces, nous n'avons pas encore de possibilité de tester. Par exemple, aujourd'hui, au Kasaï central à Kananga, je ne suis pas sûr qu'il y ait de moyen de tester directement par la RT-PCR, les tests de biologie moléculaire. Donc voilà pourquoi la précaution, la prudence exige quand même que tous les gens qui font tous ces flux migratoires soient contrôlés sur le plan immunologique et sur le plan de résultats pour la COVID-19.
Pourquoi le test n'est obligatoire que pour les voyageurs par avion, alors que le risque de la contamination est aussi valable pour les voyageurs par bateau, bus, train et autres moyens de transport à travers nos provinces?
Ce que vous dites, c'est tout simplement une question de très bon sens et vous avez parfaitement raison. On a commencé par l'avion, c'était question d'organiser matériellement aussi ce contrôle. Progressivement, ça va bien s'étendre à d'autres moyens, notamment, comme vous dites, le transport par route ou le transport fluvial. Parce que le virus, ce n'est pas que l'avion qui peut le déplacer, vous vous en doutez évidemment.
Professeur, le relâchement dans les gestes barrières, nous ne cessons d'en parler. Que diriez-vous à la population à ces sujets? Parce que là, ça devient vraiment visible et même très visible à Kinshasa.
Laissez-moi vous dire toute ma satisfaction de vous entendre dire que vous ne vous lassez surtout pas de le répéter. La répétition étant, tout le monde le sait, la mère des sciences. Comme vous, nous constatons ce relâchement qui semble élire domicile dans la population. Il nous incombe de rappeler absolument que cette maladie qui nous appelle tous à l'humilité, nous apprenons les uns des autres. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde occidental avec des systèmes de santé forcément pourtant un petit peu plus forts que le nôtre. Ils vivent des secondes vagues, etc. et sont de nouveau dans des périodes de couvre-feu et j'en passe. Donc, est-ce que nous voulons en arriver là? Je pense que cette pathologie, et le professeur Muyembe le répéta encore, je l'ai suivi sur Top Congo il y a quelques jours, il est à l'étranger, pour dire, apprenons, comme pour la grippe espagnole il y a quelques années, apprenons à vivre avec ce virus. Et vivre avec lui, ce n'est pas lui faciliter la transmissibilité à travers toute la population, parce que les conséquences peuvent être parfois lourdes. C'est un virus qui est quand même grévé d'une mortalité pour certaines formes qui est au-delà de nos capacités sanitaires absolument. Donc je pense qu'il ne faut pas, nous devons tout le temps rappeler que ces mesures barrières doivent être de stricte application, étant donné, le chef de l'État l'a si bien dit, la fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la maladie.
Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe.
Je vous en prie.
Le chargé des maladies au sein du secrétariat technique de la Riposte répondait aux questions de Blaise Chindani dans ce journal qui à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.